13 septembre. Bienvenue à cette première émission de l'aérospatiale, la deuxième saison animée par moi-même, Julie Gagné, qui est avec grand plaisir de retour parmi vous pour une super saison encore remplie d'art visuel, d'art audio, de gens, d'œuvres d'art, d'équipe aussi, hein, une équipe qui est sensiblement la même, mais qui se renouvelle. Jacques Gignac qui est toujours avec nous à la mise en onde, Raymond Poirier qui sera toujours avec nous pour la revue de presse. Anouk Béloge, Dominique Savard aussi, qui reste avec nous. Trois nouveaux chroniqueurs, Fanny Hénon-Lévy, qui nous fera les arts visuels dans les autres arts, Catherine Boivin, une enseignante en histoire de l'art, qui nous fera des topos sur les expositions. Également, Simon Roy. Bonjour, Simon.
Salut, Julie.
Tu te chargeras de l'art audio cette année?
Oui.
Simon, mentionnons-le, qui anime aussi Web Musique, qui est spécialisé en art gratuit sur le web.
Exactement. Fait que ça va être un peu nouveau pour moi. En radio, j'apprécie vraiment, mais je ne suis pas un expert non plus. Fait que ça va être des découvertes d'un néophyte.
Bien, c'est excellent. Ce sera dans notre cas aussi des découvertes. Aujourd'hui, comme première émission, c'est quand même assez chargé. Plusieurs entrevues, notamment avec Jean-Marc Mathieu Lajoie au sujet de Mater Dolorosa qui est présenté au lieu. Une entrevue aussi avec Claude Chevalot et Carl-Frédéric Dessel au sujet du Cube, une campagne de financement assez flyée qui a été faite à l'initiative de la Chambre Blanche. On rencontre aussi Pascal Gégret et François Simard autour de leur exposition La Joconde qui est présentée à l'œil de poisson. Raymond Poirier, bonjour.
Bonjour.
Tu nous fais la revue de presse.
Comme à l'habitude, et notamment, on va jeter un petit coup d'œil à un rapport qui a été publié cet été par l'Alliance pour les arts visuels autour du secteur au Canada.
Excellent. Donc, on écoute ça tout à l'heure. Simon Roy, c'est bien de nous présenter ce qu'on va écouter aujourd'hui.
Pour aujourd'hui, je vous présente deux albums. Deux albums vraiment excellents. C'est des albums avec livret. Donc, c'est le premier que je vais vous présenter, c'est Gravicards, Whaleys and Paraphones. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des instruments de musique inventés. Okay. Aucun instrument classique ou standard. C'est tous les musiciens qui ont inventé eux-mêmes leurs instruments et qui ont appris à en jouer. Donc, assez intéressant comme album.
Donc, j'imagine Gravicards, Whaleys et Paraphones, c'est le nom des instruments
oui, c'est ça,
qui ont
exactement.
Été utilisés, OK?
C'est deux compilations. C'est par Bart Hopkins. C'est un type qui fait paraître un journal quatre fois par année. Ça s'appelle Experimental Music Instruments. Donc, c'est tout comme une ressource pour inventer ses propres instruments.
Okay.
Donc, il y a un catalogue, tu peux acheter du matériel, partager des trucs, toutes sortes de trucs comme ça. Donc, c'est ça, ça donne de quoi de vraiment intéressant comme album. 96 pages, beaucoup de photos.
Okay, c'est pas juste un album, mais c'est vraiment un livre.
Oui, c'est ça, exactement. Puis pour les néophytes qui ne connaissent pas trop le domaine, puis tout, c'est comme une bonne introduction parce que ça couvre beaucoup de choses.
OK.
Donc, vraiment intéressant.
OK, puis tu nous parles de notre album aussi?
Oui, ça va être la continuation. Cette fois-ci, c'est Orbitones, Spoonarp and Bellophones. C'est comme le deuxième album, la suite de ça.
Oh, excellent. Donc, on s'en met en oreille tout de suite?
Oui, tout de suite, on va entendre Hans Reichel. Il s'appelle, donc, c'est ça sa pièce, c'est un extrait de la pièce Le Bal. On écoute tout de suite, puis je vous explique l'instrument tout de suite après.
Parfait, merci.
Thank you. Genre de languette de bois, un peu comme une règle qu'on placerait sur une table. Donc, l'artiste frappe sur la, comme une hanche de bois un peu. Puis, c'est ça, c'est en variant la longueur que ça donne ce bruit-là. Là, ce qu'on a entendu, c'est pas juste une, c'est comme plusieurs pièces de bois.
Okay.
Chaque pièce de bois est sculptée d'une façon différente, donc un son différent pour chaque pièce de bois. L'artiste enregistre ça, fait un remix de tout ça, puis c'est tout fait à la main.
Wow.
Vraiment beau comme instrument, différentes essences de bois.
Mais
aussi.
Mais là, ça fait un peu penser à des voix aussi.
Oui, c'est ça exactement, c'est vraiment surprenant, c'est juste un petit bout de bois, c'est tout.
Bon, ben Simon, merci, c'est un premier extrait. Tu restes avec nous au cours de l'émission pour nous présenter les pièces. On est gâtés aujourd'hui. On passe à la revue de presse avec Raymond Poirier.
Oui, et après ce doux son du daxophone qu'on a entendu. Alors, petit regard sur l'actualité en art visuel. Notamment une grosse nouvelle qui est sortie hier par communiqué, qui est beaucoup reprise aujourd'hui. Lynn Ouellet est officiellement la nouvelle directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec. Il faut rappeler qu'elle occupait cette fonction par intérim depuis le mois d'avril dernier. Moment où sa prédécesseur Esther Trépanier avait quitté ses fonctions, quand même assez soudainement.
Ça avait attisé les rumeurs, puis la machine à patins et tout ça. Là.
Et les gens se disaient à ce moment-là, ben, regardez, c'est probablement un intérim qui risque de se transformer en direction générale de manière plus permanente. Finalement, on se rend compte qu'effectivement, c'est le cas. Mme Ouellet, donc, va être en poste jusqu'en 2014. Donc, elle est là pour 3 ans. Et 2014, en fait, c'est l'année de l'ouverture de l'agrandissement du complexe muséal. Donc, de cet agrandissement qui a été fortement médiatisé. Donc, on imagine que ça va être également le principal focus de son mandat à la direction générale.
Oui, parce que 2014, ça arrive à grands pas. Si on se rend après la fin du monde.
Et si on se rapproche un peu de nous, en fait, si on va simplement à l'année prochaine, 2012, le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul a annoncé que ce serait l'artiste Serge Murphy qui serait commissaire de cette 30e édition, quand même une édition bien attendue. On va célébrer un anniversaire important pour cet événement-là. Alors, ce serait intéressant de voir l'apport que donnera Serge Murphy. Il est sculpteur, il est dessinateur, il est surtout connu pour ses assemblages d'objets hétéroclites. Et personnes qui fréquentent le symposium depuis déjà quelques temps se rappelleront de sa présence en 1996. Et cet été, d'ailleurs, si vous voulez voir un peu, c'est encore à l'affiche, mais jusqu'au 2 octobre, le Musée des beaux-arts de Montréal a présenté une exposition d'œuvres, donc, de M. Murphy.
Donc, on attend ça de s'assurer, hein, vraiment, encore. Il y a toujours une petite pile de dossiers.
Oui. Toujours des éléments qu'on peut suivre. Nouvelle peut-être un peu moins joyeuse, en fait. J'ai trouvé deux éléments sur la thématique du vandalisme. Les objets d'art, dès qu'on les expose dans le public, peuvent se retrouver victimes de vandalisme, malheureusement. C'est arrivé notamment dans la dernière semaine à Buenos Aires. Un exemplaire original du penseur de Rodin, en fait l'édition numéro 3, a été vandalisé. Donc quand même, là, c'est
original.
Et donc, elle a été recouverte de graffitis et de peinture rouge. Et comme si c'était pas assez, les gens de la ville, plutôt que de s'informer sur la mesure à suivre, ont décidé de nettoyer le penseur au canon à eau.
Ooh.
Donc, ce qui fait que la patine originale est partie.
C'est
assez ahurissant que des gens fassent des choses comme ça envers des œuvres d'art aussi importantes. Et les gens se questionnent en fait à savoir, est-ce qu'on devrait garder des œuvres comme ça exposées publiquement parce que c'était une œuvre qui est accessible? Donc, est-ce que c'est parce qu'elle est accessible qu'elle a été vandalisée? La question se pose, et ça n'est pas seulement non plus en Argentine. Cet été, en fait, je suis tombé sur un notule dans le Devoir le 25 août dernier. Il y avait en Gaspésie une installation photographique de Maryse Boudreau qui avait été vandalisée, en fait, c'est dans le cadre des rencontres internationales de la photographie de Gaspésie. Elle a été volée 2 fois, en fait. Il y avait des 19 drapeaux photos. La moitié des mâts a été volée dans une nuit, et le lendemain, le reste des mâts ont été volés. Et ça, c'était à Miguacha, donc ça arrive aussi près de nous. Est-ce qu'il y a un problème chez certains par rapport au respect d'œuvres d'art de ce type-là? Je pense que la question se pose.
Bien, la question se pose, puis le problème après, c'est que si ça arrive trop régulièrement, bien, des œuvres publiques comme ça, ils vont en avoir de moins en moins. Et soudainement, l'accès à l'art, l'accès quotidien, plus facile, se fera plus. C'est vraiment
dommage. C'est souvent pour une bête question monétaire, le cuivre vaut très cher. Donc, il y avait Sally Moileau au quartier Parc Brébeuf, une sculpture qui avait presque été volée. Un citoyen l'a trouvée. Trouver les malfaiteurs à la dernière seconde, puis Il allait s'enfuir avec la sculpture, donc
souvent, c'est fou, pour la vente. C'est aussi pire que les Romains qui ont détruit tellement de bronze, des sculptures grecques pour se faire des armes.
Alors, plus ça change, plus c'est pareil.
Mais c'est ça, 2000 ans plus tard.
Et en terminant, un clin d'œil que je vous invite à compléter sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. On va mettre des liens vers les articles dont on a parlé aujourd'hui. Mais il y en a un qui y est déjà. C'est une étude qui a été menée par l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, autour du milieu des arts visuels. C'est à la commande de l'Alliance pour les arts visuels. Alors, l'idée était de voir un peu qu'est-ce qu'on dit des arts et est-ce que les études qui sont faites présentement et les regards qui sont portés par le gouvernement sont adéquats face au milieu. Essentiellement, les recommandations d'études, j'y vais en rafale. Alors, le secteur des arts visuels dans son ensemble devrait faire l'objet d'une étude peut-être un peu plus systématique et récurrente. Et les prochaines études devraient accorder également une priorité à l'économie du secteur avec un accent prioritaire sur ce qu'on appelle le marché de l'art. Il faut également conditionner un peu mieux le système d'éducation quant à l'évolution du secteur des arts visuels. On demande également aux provinces de mieux s'impliquer en matière de documentation du secteur, de mieux comprendre également le dispositif d'acquisition des musées canadiens. Et une conclusion qui est assez intéressante, je vous la cite et je terminerai là-dessus. On dit donc la tendance à approcher les arts visuels comme un secteur d'activité économique légitime, comme un marché où se transigent des valeurs monétaires et comme un bassin de main-d'œuvre rémunéré est un phénomène historique. Mais dans ce contexte, il vaudrait la peine de se rappeler que cet univers, comparé à d'autres secteurs, marchés et professions, se caractérise par la présence prépondérante de producteurs indépendants ou bénévoles, de micro-entreprises, d'organismes à but non lucratif, d'institutions d'enseignement et d'enfants. Fondation privée. L'analyse de la dynamique des échanges au sein de cet univers ne peut en faire abstraction. On a l'impression que jusqu'à maintenant, malheureusement, on en fait abstraction.
Raymond, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On se revoit la semaine prochaine.
Sans faute.
Simon Roy, tu nous as choisi une autre pièce.
Oui, une pièce assez spéciale. Une version de la pièce New York, New York, mais vraiment spéciale. C'est Wendy May Chambers. C'est une femme d'habitude qui fait des concerts à vraiment très grand déploiement. Concert avec 20 pianos, concerts, des fois c'était aussi avec une trentaine de joueurs de harpe. Donc, fait toujours des trucs à grand déploiement, mais a inventé un instrument. C'est un orgue, mais avec des klaxons d'auto et de camions. Donc, elle a dû faire le tour des cours à scrap pour trouver vraiment le klaxon avec la bonne sonorité qui représente chaque note. Donc, c'est ça, c'est assez spécial. C'est la pièce, comme je vous disais, une reprise de New York, New York, mais façon klaxon, on va entendre ça.
À l'instant, merci. En compagnie de Julie Gagné et de Jacques Gignac, à la mise en onde de Simon Roy qui nous fait des petits clins d'œil, qui nous a fait la sélection musicale aujourd'hui. Raymond Poirier l'a mentionné tout à l'heure dans sa chronique, l'aérospatiale s'est dotée de site Internet qui prend la forme d'un blog. Sur ce site, vous pouvez trouver tous les podcasts, donc toutes les émissions qui ont été enregistrées l'année dernière. Il y en a quelques-unes qui manquent, mais à peu près tout y est. Également, vous pouvez trouver les communiqués de presse, les informations sur les expositions. Excusez-moi, je suis essoufflée. J'ai couru dans ma pause musicale. Vous pouvez trouver aussi donc toutes les collaborations des chroniqueurs à l'émission et toutes sortes d'autres choses. Donc, je répète, l'aérospatiale.wordpress.com, très accessible, très facile. Je viens d'être rejointe en studio par trois gaillards qui exposent en ce moment à l'expo à l'œil de poisson. Pascal Gingras, bonjour.
Bonjour.
François Simard.
Salut.
Vous exposez les deux ensemble la Joconde, donc un projet commun.
Exactement.
Vous avez invité aussi Francis Arguin à exposer avec vous à l'entrée vidéo. Bonjour Francis.
Hello.
Comment ça va tout le monde?
Très bien.
L'exposition va bien aussi. Hein? Le vernissage était à la fin de la semaine dernière. Ça
ouais,
c'est pas mal.
Ça a été
pas
mal. Il y a pas mal de monde.
Petite question, François. Mon Dieu, je suis perdu dans mes noms. François, Pascal, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter une exposition ensemble?
En fait, ça date d'assez longtemps. Je pense que la première fois qu'on s'en est parlé, François avait une expo à Londres, puis j'étais allé le voir là-bas. On s'est comme rendu compte qu'après un certain temps, en fait, on s'est connus au bac. On s'est connus au bac, puis on s'est rendu compte que nos démarches, ce qu'on faisait, il y avait quand même un écho assez fort entre nos deux démarches, même après avoir arrêté de voir la production de l'autre pendant un certain temps, il y avait encore ce lien-là entre nos affaires, sans que ce soit des choses qui soient complètement pareilles, il y avait cet écho-là. Là.
C'est quoi le lien, justement, que vous voyez dans vos productions?
Ben, ça a été un lien formel au départ. C'est justement, comme Pascal disait, lui, il était à Berlin, moi, j'étais à Québec, puis on a entretenu une sorte de correspondance de nos pratiques, puis on s'est aperçu que formellement, il y avait beaucoup de similarités, lui en sculpture, moi en peinture, qu'on a voulu mettre ça en commun dans un projet qu'on a élaboré pendant à peu près un an, qui est présenté maintenant à l'œil de poisson.
Puis est-ce que vous avez travaillé ensemble sur toutes les œuvres ou séparément, mais en vous consultant régulièrement pour voir un peu l'harmonie de l'ensemble?
C'est deux pratiques distinctes. Moi, c'est en peinture, Pascal, c'est en sculpture et en installation.
Il n'y a aucune œuvre qu'on a faite ensemble. Okay. C'est plus dans une optique de correspondance, on pourrait dire, là, sans que ce soit une œuvre répond à une autre. On répondait à l'autre à certaines questions qu'on s'était posées dans une correspondance. On répondait à l'autre dans nos œuvres, tout simplement.
Puis les productions ont été réalisées dans la même période de temps.
Okay.
C'est-à-dire pas mal tout cet été, puis un peu avant. Mais le gros de la production, ça a été les deux en même temps, dans deux lieux différents, presque à côté, mais pendant tout l'été.
Puis vous avez décidé d'appeler ça la Joconde, hein, quand même. Non, mais c'est souvent, on pense à la Joconde comme étant un intouchable. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'appeler ça comme ça?
C'est le titre d'une des pièces de l'expo. Ça part de ça, en fait. C'est une œuvre sur papier que moi je présente dans la petite galerie parce que l'exposition.
C'est donc au mur de droite là, quand on est dans la petite galerie.
C'est comme une espèce de fantôme de la Joconde, si on veut, sur papier que j'ai faite. Puis là, on regardait ça à l'atelier, on trouvait ça assez drôle. On a décidé de donner le titre à cette expo-là parce que aussi. Je pense que ça nous ramène à un mode de présentation muséale puis à tout ce qui en découle parce que notre expo est assez muséale dans sa façon de présenter les objets.
Oui, la peinture au mur, la sculpture au centre, sur le sol.
C'est très classique, fait que c'est un petit clin d'œil à tout ça. Là.
Puis vous avez décidé d'inviter Francis Arguin aussi qui reprend la vidéo.
Ben oui, après une longue période d'absence. Vidéographique.
Ben oui, depuis quoi, 2003, je pense que tu avais
pas... 2004, je pense. Quand j'étais au bac, j'en ai fait quelques-unes, mais disons que c'est ça, 2005. En tout cas, depuis 2005, c'est sûr que j'en ai pas fait.
Okay,
puis, à part des montages de performances, là, mais...
OK, puis là, tu nous présentes une vidéo qui s'appelle l'Odyssée, comme l'Odyssée, dans 2001, l'Odyssée
ben, comme dans l'Odyssée de l'Odyssée de mer, oui. Ben, je suis en train de lire ça au moment où on m'a invité un peu... En fait, on m'a invité un peu, mais c'était au comme... En fait, moi, je posais la question à, pendant un souper, j'ai demandé à François qu'est-ce qu'il allait mettre dans l'entrée vidéo, puis ils m'ont dit, ben, je sais pas, François m'a dit, on pourrait mettre une vidéo que tu as faite, ravissant, une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs années. Mais là, c'était comme une blague au départ, et finalement, ça s'est avéré être quelque chose de sérieux.
Sur lequel tu t'es...
dans lequel je me suis investi, mais je pensais pas refaire la vidéo un jour, en fait. Donc, j'ai eu un mois et demi pour faire ce projet-là, puis c'est vraiment un truc réalisé dans l'urgence, puis c'est ça. Je me suis vraiment fait prendre au jeu, parce que j'ai comme envie d'en faire ces temps-ci de la vidéo au bout, là. Fait que c'est...
Fait que t'as repris la piqûre de ça.
Ouais, c'est ça. Ben, je ne dis pas que je vais continuer à faire ça exclusivement, mais j'ai vraiment apprécié faire ça. Puis j'ai cherché aussi à... J'ai un peu joué le jeu là, de la correspondance. Je me suis faufilé dans leur projet. Puis j'étais allé un peu sentir à l'occasion dans à l'aide de poisson. J'allais voir Pascal quand il était bien occupé, puis qu'il n'avait pas le temps de me parler. Puis j'allais juste voir un peu les objets. J'allais voir François aussi. Mais je connais aussi leur travail respectif. Puis je sais que de toute façon, il y a quelque chose qui fonctionne... comme une sorte de plateforme, on est comme sur une plateforme connect, je pense.
Ben ouais, mais en fait, moi, une chose que j'ai remarqué de l'exposition globalement, c'est le côté un peu ludique, tu sais, on sent que de part et d'autre, vous avez tous eu vraiment du plaisir à faire ça, mais que vous souhaitez aussi que les spectateurs aient du plaisir à peut-être jouer au jeu des correspondances.
Ouais, même sans que ça soit quelque chose de didactique, là, qu'on voit la pièce A correspond à la pièce B, puis qu'on fasse comme un parcours logique comme ça. Nous autres, on a voulu comme juste donner certaines pistes qui montrent une espèce de complicité qu'on a eue à certains égards, comme au niveau des motifs décoratifs.
Mais oui, parce que c'est quand même présent. Ouais, là.
Comme Pascal qui a travaillé des motifs de terrazzo, qui sont un revêtement de plancher, puis moi j'ai travaillé des marqueteries basées sur un motif de parquetterie, de plancher.
C'est toi qui as fait les marqueteries?
Oui, c'est okay. Ça. C'est des fonds de tableaux faits tout en marqueterie traditionnelle. Puis les deux techniques, je trouvais que en sculpture et en peinture, c'était comme on référait un peu à l'objet architectural, puis à des techniques de construction finalement, puis de fabrication qui sont très connexes.
Mais ouais.
Ça, c'était intéressant à ce niveau-là. Là.
Puis Francis aussi, il y a un côté justement, vous parlez d'éléments décoratifs là, dans ton vidéo aussi, là, on voit des motifs là, qui sont récurrents.
J'ai aussi intégré des éléments qu'on retrouve dans l'exposition littéralement, comme il y a une des pièces à Pascal que j'ai comme pris en photo puis que j'ai reproduit dans Photoshop, qu'on peut la voir dans la vidéo. Donc si on est attentif, on peut vraiment trouver des choses qui vraiment des citations comme ça. Puis il y a aussi des trucs assez chromatiques, là, vraiment juste des couleurs qui apparaissent un peu comme les peintures de François qui sont au fond de la salle, qui sont vraiment juste comme des plages de couleurs. Là. Il y a aussi ça. Donc,
couleur, en fait, semble aussi prendre une importance assez grande là, dans le travail des trois. François, je pense justement à la pièce au fond.
Ouais.
C'est assez surprenant. Là. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir de ton travail.
Non, effectivement, je me suis gâté là, pour cette expo-là. J'ai essayé des nouvelles avenues, mais en fait, j'ai pris mon travail puis je l'ai fragmenté en différentes façons de travailler qui se retrouvent habituellement regroupées dans le même travail. Mais je les ai expérimentés de façon isolée, comme juste les tableaux du fond, c'est juste des bandes de couleurs.
Comme un rideau de couleurs.
C'est des rideaux de couleurs faits au fusil à peinture.
Moi, le numérique, c'est à la brosse.
Ouais. des soft edges comme ça, faits au fusil à peinture, que j'ai fait au départ, qui étaient destinés à être poursuivis comme le reste de mes tableaux habituellement, mais que j'ai arrêté juste au processus du départ, qui est une intervention mécanique qui détermine ces bandes-là. Fait que je me suis amusé à décortiquer mon travail comme ça, puis je pense que c'est une piste que je vais poursuivre.
OK. Puis Pascal aussi, dans tes sculptures, bon, elles sont pour la plupart colorées, mais il y en a une sur laquelle tu as mis des craies carrément.
Ouais, ouais.
C'est pour référer au médium, couleur ou.
Je sais pas si c'était juste pas nécessairement pour référer, mais ça a été plutôt un geste impulsif, je dirais. Là, j'avais comme vraiment envie de mettre de la craie, là, tout simplement. Fait que. C'est ça, mais ça a été, pour moi, cette période-là, ça a été vraiment le temps, la première fois que je faisais une recherche aussi profonde sur la couleur en sculpture. C'est arrivé que j'ai mis de la couleur dans... Il y a une œuvre que je me souviens consciemment, là, je jouais avec la couleur là, comme ça, mais c'est comme si j'avais pris ça, là, puis là, je l'ai vraiment, j'ai vraiment fait de la recherche là-dedans. Là. Puis c'était vraiment pour faire écho au côté pictural, tout ce qui se passe entre l'objet pictural, puis tout ça, puis en fait, le pictural en objet. Là.
Mais oui, parce que vous référez, c'est ça, là, à la discipline de l'autre à travers vos créations. D'ailleurs, ça s'adresse plus à toi spécifiquement, François, mais tu parlais tout à l'heure de tes supports en marqueterie. Ouais. Ça offre un contraste vraiment intéressant entre le côté vraiment naturel du bois qui est organisé géométriquement, puis ta peinture à toi qui est plus partage par ligne, par signe.
Ce que j'ai apprécié dans ce projet-là, c'était de passer tout l'été à faire de la petite marqueterie. Là. C'est super long à faire.
C'est contemplatif, j'imagine.
Ah, c'est long. Ça a aiguisé ma patience, vraiment, parce que d'habitude, je fais des tableaux pas mal plus vite que ça.
Oui, c'est ça, un peu plus expressif, impulsif. Ouais.
La dernière étape, là, c'était de faire la peinture dessus. Fait que c'était comme du sabotage de tout mon travail de marqueterie. Là. Ça, j'ai bien aimé ça.
Ah ouais, donc faire du graffiti directement sur ton propre travail.
Oui, un peu, mais je savais tout au long de ce long parcours de marqueterie que j'allais terminer par une bonne couche de peinture bien expressive.
C'est comme l'auto-vandalisme.
Ouais, je savais qu'il y avait une petite récompense au bout là, de tant de patience.
Tant mieux si ça a été apprécié ce moment-là. François Simard, Francis Arguin, Pascal Gingras, merci beaucoup. C'est tout le temps dont on dispose. On s'en va en pause. C'était pas volontaire. Au retour, on discute avec Claude Chevalot et Carl-Frédéric Dessel au sujet de la campagne Cube.
Merci.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL.
À ne pas manquer en septembre, Secret Chief le 6, Leifer le 10, la soirée qui veut jouer au sommelier le 14, le retour des dodos le 16 et Mute le 17.
228 Saint-Joseph-Est, 418-988-8648, le trait d'union cercle.ca.
Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez un portage. Visitez portage.ca.
Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donnez un portage. Merci.
Du 28 septembre au 1er octobre, le Festival de la chanson francophone Limoilou m'enchante présente 4 soirées uniques avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Robert Charlebois, le 28 septembre, Philippe Noirot, Jessica Vigneault, Annie Poulain, le 29 septembre, Michel Buller, Bruno Brel, le 30 septembre et Mariem, le 1er octobre, seront au rendez-vous.
Les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra
le jour. À noter que les spectacles du 29 septembre, hommage à Sylvain Lièvre et celui de Mariem, le 1er octobre, sont présentés gratuitement. Tous les spectacles ont lieu à 20h à la salle Sylvain Lièvre du Cégep Limoilou. Du 28 septembre au 1er octobre, la grande chanson, c'est à Limoilou. Billets en vente sur le réseau Billettech.
Moi aussi, j'aurais quelqu'un qui m'aime.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
Précise, bienvenue à cette deuxième et dernière moitié de l'émission L'Aérospatiale, toujours en compagnie de Julie Gagné à l'animation, Jacques Gignac à la mise en onde et dans les coulisses, Simon Roy qui va venir nous présenter ses sélections audio. Vous savez, dans les jours qui suivent, en fait, jeudi prochain, il y a un événement quand même d'envergure dans le milieu des arts visuels qui va avoir lieu, puisque la Chambre Blanche va lancer Cube, une campagne de financement nouveau genre qui propose le décloisonnement du milieu des arts, de la nouvelle technologie et des artistes. Et, dans le fond, ça offre des occasions concrètes d'initier la conversation dans un contexte convivial et interactif. Pour nous en parler, Carl-Frédéric Dessay, le président d'honneur et conseiller stratégique chez X Media. Bonjour.
Bonjour.
Et Claude Chevalot, porte-parole de la campagne, rédactrice, traductrice, ancienne collaboratrice à l'émission L'Aérospatiale. Bonjour, Claude.
Bonjour, Julie.
Ça va bien? Vous êtes en train de travailler fort?
Oui, on travaille fort.
Petite question peut-être en commençant, Carl-Frédéric, on connaît X-Media pour son apport au développement technologique de Québec, aussi ben, les deux. En fait, on connaît la volonté de la Chambre Blanche de développer leur web, leur réseau. Est-ce que c'est un peu ça qui est à l'origine du partenariat?
Oui, parce qu'on entend parler depuis plusieurs années de la technoculture.
Ben
c'est,
oui,
c'est un terme politique, entre guillemets, qui évoque beaucoup de choses, mais peu de choses concrètes, dans le fond, puis moi, ça me tentait d'explorer ça. Puis quand la Chambre Blanche m'a approché, je trouvais que c'était la Chambre Blanche, c'est les pionniers de la technologie puis de l'art à Québec. Là, ils faisaient ça bien avant que le quartier s'appelle technoculturel. Alors, je me suis dit que c'est sûrement une bonne piste à suivre pour faire des choses, des rencontres concrètes autour de ça.
Puis on nous annonce aussi dans le communiqué que la campagne Cube va vraiment faire le pont entre le milieu des arts, des technologies, le monde des affaires. Ça va prendre quelle forme?
Il faut venir au lancement, je le dis, pour savoir comment ça va se passer. Non, mais dans les grandes lignes, en fait, on va vraiment proposer des événements concrets qui vont mettre en contact les gens qui travaillent. Comme Carl-Frédéric le disait, la technoculture, c'est plus une pensée qu'une réalité. Au bivouac urbain, les créateurs de jeux vidéo puis les artistes, c'était même pas du même côté de la rue, tu sais.
Ben ouais.
C'est une image qui est quand même assez forte. Fait que ça va se passer dans des événements concrets qu'on va monter, qui vont mettre en contact des artistes dont la pratique utilise les nouvelles technologies. Donc, il y a un aspect très, très, très concret à ça qui va en appeler au côté pratique des créateurs, mais aussi des gens qui travaillent avec les nouvelles technologies. Puis dans cet espace-là, tout le monde va y trouver son compte. En fait, c'est créer, comme Carl-Frédéric le disait, un véritable dialogue. Parce qu'en ce moment, ça fait partie de la légende urbaine plus que de la réalité. Donc, ça va
être techno puis la culture d'un bar, finalement, dans le rock, c'est ça aussi.
Mais, c'est ça, puis le monde des affaires, entre guillemets, là, chacun a des images assez précises de ce que c'est le monde de l'art contemporain puis le monde des affaires.
Mm-hmm.
On veut décloisonner ça, on voudrait que les gens se rencontrent, parce que, d'après moi, ça passe par les gens, ça passe par les rencontres, puis une fois que ces gens-là ont trouvé des passions communes, ben, ça va évoluer. Il n'y a pas plus créatif que des gens qui font de la programmation ou du graphisme d'interface ou des jeux vidéo ou des choses comme ça, sauf qu'ils font dans un contexte d'affaires, entre guillemets, et il n'y a pas plus techno que les artistes de la Chambre Blanche qui font des trucs avec des projecteurs, avec de l'Internet, avec des sites.
Créer des téléphones cellulaires, comme ça.
Il y a moins de recherche et développement, puis d'amusement qui passe par la Chambre Blanche, puis des centres comme ça, par le côté artistique. Puis il y a aussi beaucoup de peut-être d'autres compétences que l'industrie, entre guillemets, peut amener. Puis je pense que c'est intéressant d'avoir le dialogue. Moi, depuis un mois qu'on prépare cette campagne-là, je trouve ça intéressant de voir comment la Chambre Blanche est ouverte à ces choses-là et comment on peut intégrer l'idée d'une campagne de financement, parce que c'en est une.
Ben oui, c'est ça, non?
On veut financer cette activité-là à travers des activités intéressantes qui vont mettre en commun tout ce monde-là.
OK, donc le financement, ça va vraiment être par le biais des activités.
Ouais. Concrètement parlant, en fait, on utilise un programme de placement culture qui va nous donner 3 $ pour chaque dollar ramassé dans le cadre de cette campagne-là. C'est vraiment une bonne affaire.
Ben ouais.
Donc, à chaque fois que vous donnez 1 $, ça nous fait 4 $. Mais et plus concrètement, on va créer un certain nombre d'événements. Jusqu'à maintenant, on a prévu 4 événements, incluant le lancement, et un grand événement à la fin de la campagne, au mois d'avril, qui va être quelque chose vraiment d'envergure, qu'on va vous dévoiler peu à peu pour tenir votre attention jusqu'au bout. Mais c'est ça, c'est des événements concrets qui vont avoir un coût d'entrée, minimum, minimal, accessible pour arriver justement dans cet espace-là. Puis Carl Frédéric a plein d'idées de choses qu'on va pouvoir faire.
J'espère, en tout cas, faire des petites choses, ça prend pas de grand-chose des fois. Choses, moi, je trouve ça fascinant de voir le côté international du quartier Saint-Roch. Là. C'est drôle parce qu'on est au restaurant des fois, puis on écoute les autres tables, ça parle anglais.
Ouais.
Il y a quelques années, on voyait pas ça, puis c'est des gens de l'industrie du jeu vidéo, d'entreprises et tout, qui viennent à Québec, puis qui sont là pour un mois, puis des périodes assez longues, des fois, puis qui créent des liens, des choses. Puis tout le côté international de la Chambre Blanche, moi, m'a fasciné. Il y a des résidences d'artistes où on accueille des gens, puis nous, on envoie des gens de Québec à l'étranger partager des connaissances, faire des choses. Puis c'est exactement la même chose qu'on voit en technologie. Puis il y a cet aspect-là très intéressant à développer. Puis nous, on aimerait ça exposer tout ce qui s'est fait à la Chambre Blanche dans les dernières années à l'international, puis le montrer aux gens de Québec. Il y a des projets fascinants qui sont là, puis qui sont tous archivés, puis il y a des gens qui vont venir nous les présenter. Puis tout au long de l'année, ben j'espère qu'on va réussir à faire ça. Alors oui, il va y avoir des événements officiels, mais moi, j'espère qu'il va y avoir aussi des événements officieux. Les entreprises vont accepter de recevoir des artistes pour présenter à leur démarche, puis ce que les gens font. Puis c'est fascinant quand tu prends le temps d'écouter ce qu'il y a derrière, même si à premier abord, c'est de l'art contemporain, ça peut paraître un peu loin des préoccupations des jeunes qui font des jeux vidéo, mais c'est pas vrai, ces gens-là, ils sont très ouverts, ouais. Ils sont très attentifs à ça.
Mais oui, puis en plus, des fois, c'est des méthodes de travail aussi. Mm-hmm. Des artistes qui travaillent dans le domaine des technologies vont utiliser certains procédés, les gens des technologies vont utiliser d'autres, ils peuvent s'entraider aussi dans leur production.
Puis, comme Carl Frédéric l'a dit, la Chambre Blanche a une programmation essentiellement international, donc on va avoir les artistes qui viennent du Brésil, les artistes qui viennent du Japon. C'est le contact aussi avec des façons de faire qui sont d'ailleurs. Puis au lancement, on va en profiter pour donner la parole à trois artistes associés à la Chambre Blanche qui se sont produits à l'international. Donc, Éric Dorion, en visuel.
On connaît bien, hein?
On connaît bien notre beau Dorion. Jeanne Bellou-Landry, qui est aussi une artiste qui ne travaille qu'avec le web, puis qui va d'ailleurs être la chef d'orchestre, si tu veux, de la dernière... du dernier gros événement. Et puis, Christophe Villot, qui est l'initiateur des Reactable, de Reactable.
Oui, qu'on avait vu au mois multi.
Oui, c'est ça, il y a deux ans. Oui. Puis lui, il va nous faire une petite présentation via Skype parce qu'il est dans la Silicon Valley.
Oh.
Ça va être très techno. Ça va être très le fun.
Puis bon, c'est une campagne de financement, on le disait. L'objectif, c'est de 40 000 $. Qu'est-ce que ça représente, 40 000 $, pour la Chambre Blanche ou globalement comme un centre d'artistes? Hein, que ça peut amener où, avez-vous?
Les centres d'artistes ont cette capacité d'affaires, entre guillemets, de faire énormément avec peu. C'est fascinant, là. Des fois, on se fait des plans d'affaires pour faire des choses, mais vraiment, les centres d'artistes, je pense, par l'implication bénévole, parce qu'il y a plein de monde autour de cette campagne-là qui travaille fort à faire des invitations, à faire développer l'idée de Cube et toutes ces choses-là. C'est des bénévoles, c'est des gens qui sont impliqués là-dedans. Alors ça aide à cet argent-là à faire du chemin. Alors je pense qu'avec le même 40 000 $ qu'on mettrait dans l'entreprise privée, on va aller 10 fois plus loin avec le travail qu'a fait Chambre Blanche.
En fait, sans rentrer dans les détails techniques, le projet de placement culture place l'argent pendant un certain temps. Donc, il y a de l'argent qui va être disponible
à long terme, mais ça
va assurer la pérennité puis l'autonomie financière jusqu'à un certain point de la Chambre Blanche. Puis on sait dans quel monde on vit, on sait quel premier ministre on a.
Ben ouais.
Ça fait que je pense qu'on doit vraiment viser à être autonome financièrement. Je sais qu'on arrive au bout du temps, puis je ne veux pas oublier de dire qu'on a deux partenaires principaux, en plus du travail de Carl Frédéric, qui sont Symbiose 20, avec Frédéric Gauthier, qui va présenter à chacun des événements, donc déjà jeudi, puis à chacun des événements VIP, à défaut d'un meilleur mot, il va nous présenter des vins de sélection privée, puis ça, on va le donner. Puis le Pied Bleu, qui est un traiteur, qui va nous proposer des bouchées aussi à chaque événement. Ce sont deux collaborateurs précieux, puis on est bien contents de...
C'est des gens d'affaires,
puis c'est le premier exemple de collaboration, gens d'affaires, centre d'artistes.
On parle des boîtes de techno, mais c'est aussi des commerces de détail, c'est aussi quelque chose, le monde des affaires dans Saint-Roch.
Et pour en découvrir plus, on va au, au lancement de la campagne pub, jeudi 15 septembre, à 17 jeudi prochain, donc, à la Chambre Blanche. L'adresse est bien connue, c'est sur la rue Christophe-Colomb-Est. La campagne, quant à elle, se poursuit jusqu'en avril 2012.
Voilà.
Ben, Carl-Frédéric Dessel, président d'honneur, conseiller stratégique chez X-Média, merci beaucoup.
Merci.
Claude Chevalot, porte-parole, blogueuse, traductrice, rédactrice, merci beaucoup.
Merci Julie, merci de vous avoir reçu.
Simon, on s'en va en pause audio.
Qu'est-ce oui, cette fois-ci, ça va être tiré de l'album Orbitones, Spoon Harp and Bellophone. C'est Tom Waits, mais Tom Waits comme on l'entend jamais.
Oh?
Donc, oui, lui s'amuse, il aime beaucoup les sons de la maison, les sons qui l'entourent. Ça ne m'étonnerait pas qu'il lance un album expérimental un jour. Donc, dans cette pièce-là, on entend Tom Waits qui un genre d'incantation. On entend une machine à coudre, une porte qui grince avec une machine à laver sur le spin, donc sur l'essorage. Donc, drôle de pièce. Je vous dirai pas le nom de la pièce, je suis pas capable de le prononcer, mais on écoute ça.
Merci pour cette sélection. En fait, je vais dire, moi, le titre de la pièce, je me tente, c'est
ouais,
Babashi Shuija.
Ouais, on va dire.
On va dire, hein, c'est ça. Peut-être que Tom Waits ne le dit même pas non plus, le titre.
Non, c'est ça.
Donc, ben, merci beaucoup pour la sélection. On est rejoint par Jean-Marc Mathieu Lajoie qui expose Mater Dolorosa au lieu. Bonjour.
Bonjour.
Votre exposition Mater Dolorosa, je pense que ça se situe un peu hein, dans la lignée de ce qu'on avait vu à la Galerie des arts visuels en 2008.
Oui, c'est un peu la suite de ça, en fin de compte, qui était plus... dans l'achat des anges, c'était plus architectural, des débris architecturaux.
OK.
Tandis que maintenant, c'est plus spirituel, c'est plus...
C'est plus immersif aussi, hein, parce que quand on entre dans la galerie, là, il y a un éclairage qui vient tout juste de l'installation, on est vraiment plongé dans la noirceur. Pourquoi justement que ça soit aussi...
C'est-à-dire que je voulais, d'habitude sur des sacs, on s'attend pour avoir des statues, en fin de compte.
Ben ouais.
Là, c'est de créer le monde au-dessus, c'est le monde du vide, en fin de compte. Alors, tout se passe au sol, alors c'est un questionnement, savoir, on a rejeté le patrimoine, la religion.
OK.
Alors là, on est devant le vide, alors je vais créer un espace vide au-dessus, puis au niveau du sol, tout ce qui est matériel devient, en fin de compte, illuminé.
C'est le bien immatériel.
Alors, ça devient, on voit la fragilité, j'amplifie pour voir plus la fragilité, là, fait, contre des statues qu'on voit normalement sur les cercles.
Puis, dans le fond, là, je ne sais pas si on l'a mentionné précédemment, mais vous, vous travaillez à partir d'ornements, d'architecture, de sculptures religieuses que vous récupérez d'églises ou de bâtiments religieux?
Surtout que je trouve chez les antiquaires.
OK.
La plupart sont chez les antiquaires ou dans les encans. Surtout à Saint-Hyacinthe dans les encans. Dans un encan, tous les 15 jours, tous les dimanches du mois, il y a un encan. Mais je ne vais pas toujours, mais maintenant les gens me connaissent assez pour m'appeler, puis les rabatteurs, ils m'appellent pour les vendre directement maintenant, alors ça me coûte un peu moins cher.
Puis qu'est-ce qui vous a amené à reprendre ça, cette statuaire-là, ou encore ces ornements religieux-là?
Bien, j'ai été élevé dans ce régime-là, alors j'ai été dans le collège longtemps aussi. Alors, mais j'aimais le statuaire religieux, puis la sculpture en soi. Puis c'est un peu ça qui fait que... Je me suis intéressé à ça. Parce que les gens, on parle de religion, mais on voit. Ce que je trouve intéressant, c'est d'exploiter le côté. On parle de. C'est surtout aussi le patrimoine qui disparaît, mais on le voit pas. On parle de patrimoine qui disparaît, mais on ne montre pas le patrimoine qui disparaît. Alors, dans ces expositions-là, je crée visuellement qu'est-ce qu'on devrait voir normalement, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce que. Émotivement, ça. À cause chez nous, tu sais.
Ben oui, puis dans le fond, les sculptures, ça veut dire que si vous les prenez chez, des antiquaires ou encore à l'encan, ça veut dire qu'elles sont dans leur état original, j'imagine, ou est-ce que...
Oui, et si, la plupart, j'achète aussi celles qui sont brisées, alors, au départ, pour être capable de faire des installations où elles sont brisées, pour que ça ne soit pas nécessaire de les casser, en fait, quand.
OK, vous les cassez pas vous-même?
Ben, il y en a quelques-uns que je casse qui sont déjà en débris, et en fait mouler par des gens que je connais dans Portneuf, qui fabriquent des statuaires. Alors, même pour l'exposition, j'en ai fait mouler pour la casser.
Ah oui, ça doit être assez particulier, hein? Le moment de les casser, comment on sait?
Oui, ça dépend des statuts.
Ça dépend des journées, mais c'est un geste quand même assez fort, symboliquement.
Oui. Mais le fait de les faire faire, puis ce sont de... En fait, quand ce sont des dessins distribuables, on les achète dans les magasins. En fait, quand, au départ, je me suis intéressé aux statuts parce que je travaillais avec les casse-têtes.
OK, oui. On l'avait vu d'ailleurs au Musée des Beaux-Arts dernièrement aussi.
Alors, j'interchange les pièces en même temps des casse-têtes à l'autre, quand c'est les mêmes patterns, la même grille. Puis je me suis rendu compte, au départ, avant de faire des installations un peu comme religieuses, comme ça, puis là, j'ai su que j'ai réussi à avoir les débris de la chapelle franciscaine. Là, j'ai fait des installations avec ça, mais au départ, c'était comme un peu comme les casse-têtes. Les casse-têtes, c'était que les moules se répètent d'une statue à l'autre.
OK.
Alors, c'est pour ça que j'en achète, là, je vais en avoir au moins 1000. Alors, j'en achète pour essayer de récupérer à un moment donné, on va voir que les pieds de Saint-Joseph sont les mêmes que la Vierge, que du Christ, où ils vont changer seulement la tête des habits, en fin de compte.
Mais oui, puis c'est toute une critique aussi, là, j'imagine, de notre mode de production puis de la consommation. Donc, c'est l'Église catholique qui passe par la fabrique à souvenir de Saint-Anne.
Exactement, c'est ça. Alors, ça, je trouvais ça intéressant, le fait que c'était... Puis il y en a des modèles aussi de riches, pauvres, seulement selon la décoration, les prix changent. Tout ce commerce qui est autour de ça aussi.
Tout le kitsch aussi, là, finalement, tout ce qui est banalisé, tous ces grands sentiments auxquels on croyait qui deviennent un peu rien.
Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'il y a des gens, moi je suis d'une autre génération, il y a les gens aussi, nos parents, tout ça, qui ont été élevés là-dedans aussi. Alors c'est un peu, ce que j'ai fait, c'est un peu mémorial en hommage aussi, de voir aussi que c'est par terre et puis que ça crée le vide. On les remplace par quoi maintenant, ces héros? Maintenant qu'on ne voit plus que les gens laissent tomber la religion et le patrimoine aussi, que c'est très important.
Ben oui, c'est ça, parce que là, carrément, on évacue toute dimension spirituelle à nos existences, mais on évacue aussi toute trace de religion. Finalement, les églises deviennent des condos. Ça, on jette ça, c'est pas important, alors que la statue de plâtre, ça reste quand même... majeur, là, dans l'art.
Puis c'est aussi pour la pérennité des œuvres. C'est que si on détruit, nous, notre passé, qu'est-ce qui va arriver de nos œuvres à nous? Ben alors, c'était vraiment des artistes qui faisaient ces églises. C'est des choses extraordinaires. On n'a pas un passé très lointain. Alors, si on les détruit, qu'est-ce qui va rester? C'est la même chose pour nos œuvres. C'est moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la pérennité. C'est pas que le statuaire, ça m'intéresse parce que l'imagerie religieuse m'intéresse. Parce que tous les peuples inventent tous les peuples ont des religions puis ont des icônes différentes des nôtres.
Ben oui.
Puis c'est un peu repousser la mort, en fin de compte, de s'inventer. On s'invente en fin de compte des héros. Et maintenant, on les remplace par quoi? Alors, c'est pour ça tous les socles, il y a une cinquantaine dans l'installation. Il y a entre 50 et 60 socles vides, alors qu'ils sont dans le noir, parce que j'ai mis la lumière seulement au sol, pour créer cette espèce d'absence de néant qui est au-dessus de nous. Normalement, ça devrait être habité, mais c'est le sol qui est habité, qui recrée un peu avec le rouge et tout ça, l'enfer, les plaques tectoniques.
Oui, ça peut faire penser aussi à des vestiges archéologiques, là, des vieilles cités là, qu'on regarde, c'est comme si c'était très, très loin.
Oui, ça, c'est intéressant parce que c'est notre archéologie actuelle, en fait.
Ben oui, c'est ça.
C'est près de nous, quand même. C'est quoi, ce 40 ans? Depuis les années 60.
Puis moi, je reviens à l'éclairage, en fait, parce que c'est certain, avec un thème comme Mater Dolorosa, la mère des douleurs, l'aspect tout religieux, moi, je pense au Caravage d'artistes italiens. Ouais. Est-ce que vous y aviez pensé aussi un peu dans l'éclairage? Un éclairage obscur, tellement contrasté, ça a senti la violence.
Je vois là-dessus. Mais si vous avez vu l'expo et vous retournez, ça a changé beaucoup depuis deux jours.
J'ai
une quinzaine de statues et moi, je retravaille l'éclairage là, en ce moment pour le raffiner un peu plus. Puis Mater Dolorosa, l'idée m'est venue, pas l'idée, mais le titre de l'expo m'est venu du fait que c'est la plus importante. Puis c'est celle que, quand j'ai commencé à travailler avec ça chez moi, j'ai trouvé, c'est ça qui m'a accroché le plus. Les autres, j'ai trouvé un peu moins important.
L'idée de la Pietà.
L'idée de la Pietà, c'est très fort comme image.
Ben oui, puis en plus,
ça, je l'ai trouvé dans le sol de l'église. Ben, je l'ai acheté le sol de l'église à Lévis.
OK.
Puis j'ai trouvé des gens pour essayer de le mettre dans le camion. Pour demander des gens dans la rue, parce qu'on était seulement deux, c'était assez lourd.
Elle était déjà brisée
un peu. Je me disais, oh, genre, réparer ça. Quand on l'a mis dans le camion, elle a cassé comme ça.
Ah ouais?
J'ai regardé toutes les pièces, je me suis dit, à un moment donné, je vais peut-être la remonter. Mais j'avais trouvé ça tellement intéressant comme ça. Puis après, elle m'est venue l'idée de le faire avec d'autres qui seraient sur des. Qui serait cassé aussi sur des socles.
Oui, parce que ça accentue vraiment là, la charge émotive de ces seins-là qui sont immortels, qui deviennent claques, sont brisés, puis ils sont.
En fait, quand c'est. J'ai travaillé aussi sur les niveaux du plancher. J'ai construit deux niveaux différents. Un peu le contraire d'un peu que lorsqu'on va dans une église, où tu as la nef, où tu as les. C'est un peu plus haut.
Avec l'hôtel.
Là, c'est nous qui sommes au-dessus, un peu comme des sites archéologiques aussi. Il y a des... On fait le tour, puis on peut s'asseoir aussi.
Vous avez mis un banc qui répond au banc d'église?
Oui, c'est ça, pour qu'on puisse méditer. Il y a la musique religieuse.
C'est ça, d'ailleurs, je demandais, la musique religieuse, est-ce qu'il y a des compositeurs qui reviennent?
Ben, c'est ça, le commentaire de Pierre Collès, qui va très bien avec cette expo.
Puis bon, c'est quand même, c'est beaucoup, beaucoup de choses, j'imagine aussi, parce qu'il y a beaucoup de socles, il y a beaucoup de sculptures, il y a des petites pièces aussi. Est-ce que pour vous, le fait d'en mettre beaucoup comme ça, ça accentue, ça participe à créer l'émotion?
Oui, ça amplifie l'émotion.
Ça ne veut pas que ça banalise chaque petite chose?
Exactement, c'est ça. Puis j'ai fait fabriquer aussi des gens qui en fabriquent, là, des Denis Fortin. J'ai fait fabriquer des demi-moules aussi blancs pour avoir des pièces de la matière.
Mais
j'ai eu beaucoup de moules, alors j'en ai fait faire des pas très épais pour que ça sèche plus vite, en fait.
Oui, puis que ça
prenne... J'ai tourné au sol pour meubler aussi cet espace-là.
Puis peut-être dernière question en terminant, est-ce que vous avez eu des commentaires de gens? Qu'est-ce que les gens ressentent devant ça? Parce qu'on ne peut pas réagir.
Enfin, jusqu'à maintenant, c'est eu des réactions fortes, là, les gens. C'est super intéressant, en fait. Ça touche, en tout cas, je me suis rendu compte que ça touchait beaucoup plus les gens que la chute des anges. Ça touche plus directement.
OK. Puis les gens, j'imagine, qui sont bouleversés soit par la perte de repères spirituels, par le patrimoine.
Oui, ça touche les deux. On joue sur les deux, en fait.
Bien, Jean-Marc Mathieu Lajoie, merci beaucoup.
Merci, ça me fait plaisir.
L'exposition, elle est présentée au lieu, sur la rue du Pont.
Oui.
C'est tout près de CKRL. Mater Dolorosa, qui est présentée jusqu'au 2 octobre. Simon Roy, tu as une dernière pièce à nous présenter?
Oui, c'est un musicien de rue qui a inventé son propre instrument. Donc, souvent été poursuivi par la police pour pratiquer son art.
Ah, oui.
La pièce s'appelle « Motivational Music for Pedestrians ». C'est Bradford ou plutôt pour encourager les piétons qui passent devant lui. C'est un joueur à New York. Donc, il s'agit de Bradford Reed, un instrument qui ressemble un peu à une guitare électrique, mais il y a des cloches dessus. Vraiment, un instrument vraiment incroyable. Donc, on peut écouter ça.
Peux-tu nous rappeler le nom de l'album si on veut se le procurer?
Oui, ben ça, de toute façon, ça va être sur le site de l'aérospatial. Donc, il va y avoir tous les liens qui vont être disponibles. L'album, c'est Orbitones, Spoon Harp and Bellophones. Puis en début d'émission, c'était l'album Gravicards, Whirlies and Pyrophones. Donc, ça va être sur le site de l'aérospatial.
Hein, on répète l'adresse, l'aérospatial.wordpress.com. Donc, pour écouter les émissions, réécouter les entrevues, lire les communiqués, les pièces qui ont passé et toutes sortes d'autres choses. L'émission tire déjà à sa fin. Pour cette première édition, ça passe très, très vite. Quelques petits événements avant de terminer. Demain soir à 19h30, une conférence de Micheline Lachance, qui est historienne, romancière et journaliste, qui présente une conférence sur Papineau et Bourassa, deux familles illustres. Vous vous doutez que c'est en lien avec l'exposition sur Napoléon Bourassa. Jeudi prochain à 17h, allez à la Chambre Blanche pour le lancement du Cube. Passez aussi à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval pour le vernissage de l'action terroriste socialement acceptable qui nous offre une exposition rétrospective et un grand magasin. Aussi, la Clarté Dieu fait un encan le 18 septembre à 14h. Sur la Grande Allée, avec des œuvres quand même d'artistes assez connus, dont Luc Archambault, Salvatore Dali, Frère Jérôme, etc. C'est déjà tout pour nous. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine, et je vous laisse dans les très bonnes mains de Gilles Chaumel.